Jeudi à 15h10 TU sur RFI.
Bonjour, bien rebonjour, bienvenue 11h TU, 13h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
À la une de ce journal, la multiplication des feux de forêt dans une partie de l'Europe sous l'effet des niveaux de chaleur et de sécheresse, des niveaux exceptionnels. Au sud de Paris, la forêt de Fontainebleau brûle et en Espagne, le Premier ministre s'est rendu en Andalousie où 13 personnes ont péri. Les hostilités ont repris entre les États-Unis et l'Iran. Téhéran cible les intérêts américains dans les pays du Golfe. L'armée américaine attaque les moyens militaires de l'Iran près du détroit d'Ormuz. Ces frappes sont sans précédent depuis le protocole d'accord de la mi-juin. Elles ont fait repartir à la hausse les cours du pétrole. Emmanuel Macron présidera pour la dernière fois demain les cérémonies du 14 juillet. Dans l'immédiat, le président reçoit à Paris les soutiens de l'Ukraine. La canicule continue de produire ses effets. Le temps très chaud et très sec favorise les incendies actuellement dans une partie de l'Europe. En Espagne, le Premier ministre Pedro Sanchez est en Andalousie où 13 personnes ont trouvé la mort la semaine dernière. Et en France, c'est le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez qui s'est rendu ce matin à proximité du grave incendie qui embrase la forêt de Fontainebleau à une cinquantaine de kilomètres au sud de Paris. Jeanne Danglejean, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Le ministre Jeanne a fait le point sur les moyens mobilisés, des moyens très importants pour combattre le feu qui pourrait avoir une origine volontaire.
Oui, pour le moment, ils sont 500 sapeurs-pompiers à combattre les flammes dans la forêt de Fontainebleau. 500 sapeurs-pompiers venus de Seine-et-Marne, mais aussi d'Île-de-France, et puis c'est plus rare, du Sud et du Sud-Est. Un mouvement contraire à ce que l'on a l'habitude de voir, note le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Et pour lutter contre le feu, des moyens matériels exceptionnels ont été déployés.
Je tiens à souligner que c'est la première fois en Île-de-France qu'on utilise des moyens aériens nationaux. C'est la première fois. Hier, il y avait deux avions Dash et deux hélicoptères bombardiers d'eau. Aujourd'hui, nous sommes sur deux Canadair, deux Dash, qui sont des avions qui projettent des produits retardants. Et puis, nous allons avoir trois hélicoptères bombardiers d'eau qui sont déjà là, d'ailleurs, et qui sont à l'ouvrage. Les Canadair vont écoper dans la Seine. Donc, la rotation est très rapide hein, entre des passages de Canadair. C'est de l'ordre de 6 à 10 minutes hein, donc, pour aller se ravitailler en eau, puis ensuite projeter l'eau. Donc voilà, on a des moyens extrêmement conséquents. Et l'objectif aujourd'hui, encore une fois, c'est de fixer le feu.
De leur côté, les équipes de gendarmerie enquêtent pour trouver les causes de l'incendie.
Il y a eu une dizaine de points de départ de feu dans un périmètre de 1000 mètres, ce qui laisse supposer que ce pourrait être une origine volontaire.
Sur les 44 interpellations en cours pour des débuts d'incendie, les deux tiers sont des mises à feu volontaires.
Jeanne Danglejean, direct dans ce journal, merci à vous. Et puis le ministre a aussi indiqué ce chiffre édifiant. 32 000 hectares ont déjà brûlé depuis le début de la saison estivale en France. Et nous ne sommes que le 13 juillet, c'est plus que sur l'ensemble de la saison 2025. Jour après jour, le protocole d'accord signé à la mi-juin par les États-Unis et par l'Iran fait figure de lointains souvenirs. Les frappes ont repris de part et d'autre ces dernières heures. On assiste même à une escalade. L'armée américaine affirme avoir visé des dizaines de cibles sur le sol iranien. Les efforts diplomatiques sont réduits à néant, a commenté Téhéran. En représailles, les Iraniens ont tiré contre des intérêts américains dans les pays du Golfe. Conséquence de cette reprise des affrontements, les cours du pétrole sont repartis à la hausse ce matin, près de 4% de hausse. Dans ce contexte, geste de guerre impopulaire aux États-Unis. Les langues se délient dans les rangs de l'armée états-unienne. François-Damien Bourgerie, bonjour.
Bonjour.
Le Washington Post a recueilli des témoignages critiquant les décisions prises par des hauts gradés aux premières heures du conflit début mars.
Oui, des critiques au sujet de l'attaque iranienne contre Port Shuaiba au Koweït. C'était le 1er mars, au lendemain du déclenchement du conflit. L'attaque de drone avait tué 6 militaires états-uniens, la plus meurtrière pour l'armée américaine dans la guerre avec l'Iran. Le Washington Post a recueilli au total 17 témoignages de première main. Leurs critiques visent en particulier le général de brigade Clint Barnes et le major général John Hinson. Ces témoins les accusent notamment d'avoir ignoré les avertissements des services de renseignement selon lesquels Port Shuaiba était l'une des cibles identifiées par la République islamique. Résultat, un système d'alerte défaillant et une défense anti-aérienne inefficace contre les drones Shahed utilisés par Téhéran. D'autres critiques pointent aussi de graves lacunes dans la prise en charge des blessés envoyés en Allemagne, des blessés qui n'avaient pas été enregistrés comme tels au moment de leur départ, si bien qu'ils n'ont pas pu être soignés correctement à leur arrivée. L'armée a diligenté une enquête, mais d'après les informations du Washington Post, ses premières conclusions ne constatent aucune erreur de la part du commandement et aucune sanction n'est pour l'instant envisagée.
François-Damien Bourgerie du Service international. 4 ans et demi après le début de l'offensive russe, les soutiens de l'Ukraine ne relâchent pas leur effort. Leur coalition, appelée coalition des volontaires, est réunie en sommet cet après-midi à Paris, dans le cadre prestigieux de l'Hôtel des Invalides. Attendus, 37 chefs d'État ou de gouvernement, dont Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Ce sommet précède les traditionnelles cérémonies du 14 juillet qu'Emmanuel Macron présidera pour la dernière fois demain. Il vient de prononcer un discours aux armées, soulignant le réarmement en cours de la France, avec un doublement de son budget de la défense en 10 ans. En Russie, des attaques ukrainiennes de drones ont fait la nuit dernière 4 morts et 7 blessés. L'actuelle campagne militaire de Kiev a quelque peu changé le climat politique en Russie. Les autorités parlent de plus en plus ouvertement de guerre plutôt que d'opération spéciale, façon d'insinuer que de nouveaux paliers pourraient être franchis dans ce conflit. Les précisions sur place d'Anissa El-Jabri.
Chaque mot du porte-parole du Kremlin est évidemment pesé, mais celui-là a déjà été répété 2 fois en quelques jours et pas n'importe lequel. Le mot « guerre » qui était jusque-là banni du langage officiel et des médias en Russie, Dimitri Peskov.
C'est une guerre qui se déroule, une vraie guerre. Pourquoi ? Parce que ça a commencé comme une opération spéciale, mais ça a évolué. Parce que derrière l'Ukraine, il y a Berlin, Paris, La Haye, Oslo et malheureusement Washington, qui les a aidés à diriger des armes étrangères sur nos infrastructures. Structure grâce à leur
le pouvoir à
sur le 99.1.
Le rock est formidable, le rock est impeccable, le rock est remarquable, le rock est appréciable, le rock est adorable, le rock est admirable, le rock est délectable, le rock est estimable.
J'aime pas le rock.
Il est inimitable, il est inappréciable, il est inoubliable, il est inégalable, il est inattaquable, il est inestimable, il est indispensable, il est indiscutable.
J'aime pas le rock. Et je vous dis que j'aime pas le rock.
Tu n'aimes pas le rock.
Ah non, j'aime pas le rock. Alors je déteste le rock. J'ai horreur du rock.
Tu n'aimes pas le rock.
Je hais le rock. J'abomine le rock. Je maudis le rock.
Tu n'aimes pas le rock.
J'aborde le rock. Je méprise le rock. J'exècre le rock. Le rock est haïssable, le rock est détestable, le rock est exécrable, le rock est lamentable, le rock est déplorable, le rock est méprisable, le rock est imbuvable, le rock est effroyable.
Oh mince, il aime pas le rock.
Il est inqualifiable, il est déraisonnable, il est intolérable, il est inacceptable, il est insupportable, il est insoutenable, il est inconcevable, il est abominable.
Pourtant le rock c'est bad quoi.
Il n'aime pas le rock.
Ah non, j'aime pas le rock alors, ah non. Ah non, ça me dégoûte le rock alors, ah, j'aime pas ça alors.
Il n'aime pas le rock.
Ah ouais, j'aime que la danse viennoise de toute façon alors.
Toute la culture HTML.
Petit, 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 tout est mini dans notre vie. Mini moque et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer, mini mini ça manque d'air. Mini jupe et mini moque, miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus, minimum et minibus. Petit, 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 tout est mini dans notre vie. Mini moque et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer, mini mini ça manque d'air. Mini mini mini, mini 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 mini. Moi je préfère les maxi, maxi moque et maxi jupe. Maxi moche et maxi pute, il est maxi docteur Schweitzer. Maxi maxi ça respire l'air, maxi terre et terre maxus. Maximum et maxibus, maxister et terre maxus. Maximum et maxibus, maxister et terre maxus.
I don't want to go to work today. I'd rather stay home and play video games. I wanna chill, but I gotta get up. I gotta, 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 gotta get up. For real, I don't know how you gonna get me. No, 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 no. Cause I gotta get up. I gotta, 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 gotta get up.
Simplifier, accélérer, ne plus bloquer. Voilà le credo affiché par le gouvernement avec la parution au journal officiel du 22 avril 2026 du décret 2026-32. Son objectif officiel est d'alléger les procédures contentieuses en matière environnementale pour les projets dits stratégiques et de réduire les délais de justice afin de ne pas freiner la transition écologique et la souveraineté économique. Bonne idée pour certains, mais pour d'autres, pas tout à fait. Pour en parler, cette semaine, je vous propose de rencontrer la présidente de FNE Occitanie, France Nature Environnement, et il s'agit de Cécile Argentin. Bonjour.
Bonjour.
On rappelle ce qu'est FNE, France Nature Environnement ?
Alors, France Nature Environnement est une association d'intérêt général au niveau national, avec des déclinaisons dans les régions. Et donc, nous sommes FNE Occitanie Midi-Pyrénées à l'échelle de 8 départements. donc l'ouest de l'Occitanie, et c'est le plus grand réseau d'associations au niveau national et qui est impliqué dans tous les départements et les commissions départementales.
Le FNE représente en général les associations de protection de la nature et de l'environnement dans tous les espaces de concertation, avant des projets, pour gérer l'agriculture au niveau de la préfecture, pour gérer la chasse, pour gérer tout un nombre de dossiers. Vous êtes très fort sur le terrain et c'est en général vous ou des associations que vous accompagnez qui mettent en justice des projets qui seraient écocides. Alors pourquoi la Fédération France Nature Environnement, au niveau national, ça dépasse finalement le régional, est impactée au premier chef par ce décret qui est censé permettre de faire avancer plus vite les projets dans la transition écologique?
Alors nous sommes un mouvement qui marche avec la concertation, qui répond à toutes les enquêtes publiques, aux consultations publiques, qui sommes présents dans les commissions. Et donc il nous semble normal, nous, que la population soit à la fois informée et qu'on puisse aussi contribuer en tant qu'APNE, Association de protection naturelle de l'environnement, à des améliorations des projets pour qu'ils soient moins destructeurs, moins écocides. Et ce décret-là prive les associations, dont FNE, qui a un service juridique de juristes important, d'un certain nombre de possibilités de recours, mais pas seulement de recours, également tout simplement de pouvoir porter un jugement sur un arrêté préfectoral qui va ouvrir sur un projet. Donc
C'est-à-dire que vous n'avez plus accès au dossier ?
Alors, on a accès au dossier sur les enquêtes publiques ou les consultations publiques. Simplement, de ces consultations publiques sortent des arrêtés préfectoraux pour lesquels, aujourd'hui, il ne sera pas possible pour un certain nombre de projets de faire ne serait-ce que des recours gracieux, c'est-à-dire qu'on demande des modifications d'un arrêté d'exploitation parce qu'il ne nous semble pas suffisamment conservateur par rapport au milieu ou par rapport aux impacts éventuels. Donc ces recours-là sont, ce recours gracieux est devenu impossible. Et par ailleurs, nous sommes privés, mais tous les citoyens sont à la même enseigne, des possibilités de recours en première instance dans tous les tribunaux administratifs. Donc pour résumer, tous les projets qui concernent les énergies renouvelables.
En fait, en gros, il s'agit d'un saut dans une espèce de flou juridique, c'est-à-dire que vous n'allez plus savoir vraiment comment agir, comment défendre les citoyens et la nature.
En fait, le seul objectif de ce décret, en fait, c'est d'appauvrir les associations en les obligeant à recourir non pas à leurs services juridiques en interne, mais à des avocats assez coûteux qui sont habilités à intervenir dans les cours administratives. Donc, en fait, c'est un moyen qui a déjà été mis en œuvre pour l'éolien il y a une dizaine d'années, de diminuer le plus possible les recours au tribunal administratif et donc les moyens de contestation, d'amélioration des dossiers. Donc, c'est le seul et unique objectif. Il y a un grand risque à ça, c'est qu'on sait très bien qu'en diminuant les concertations, en diminuant les possibilités d'aménager, d'apporter des avenants, on risque pour certains dossiers d'arriver à une confrontation qui soit beaucoup plus musclée de la part des populations locales. Je donne un exemple, l'EDREAL le confirme.
L'EDREAL est direction régionale à l'environnement, je ne sais plus.
De l'environnement et du logement, que lorsqu'on fait une simple consultation publique, et beaucoup de cas maintenant passent en consultation publique, c'est-à-dire dématérialisée sur Internet, et non des enquêtes publiques qui supposent des enquêtes avec un commissaire enquêteur, eh bien les recours ensuite sont plus nombreux. Donc c'est un très mauvais calcul et c'est tout simplement un déni de démocratie environnementale qui pourtant aujourd'hui est tellement mise à mal.
Alors ce décret, j'ai lu aussi qu'il instaurait un délai de rigueur. Qu'est-ce que c'est ce délai de rigueur ?
Alors on va avoir aussi beaucoup moins de temps pour recourir au tribunal, c'est-à-dire qu'avant on avait une période très très étendue, donc c'est ça vraiment qui est très visé, c'est-à-dire qu'avant le recours gracieux, faute de réponse au bout d'un mois ou deux, on pouvait faire un recours dans les deux mois qui suivaient. Or là, en fait, tout est raccourci. Dès la publication sur le site internet de la préfecture, nous n'avons plus qu'un mois, je crois, pour déposer les éléments, un recours éventuel à la cour administrative, ce qui induit en fait de devoir, dès l'enquête publique, travailler avec cet esprit-là, puisque nous n'aurons jamais eu en amont une proposition d'arrêté préfectoral d'exploitation sur lequel nous pourrions proposer des, des améliorations, par exemple, ou faire des mises en garde. Donc on coupe complètement aujourd'hui les moyens de concertation, sachant que les enquêtes publiques sont en général des tartufferies, puisque les commissaires enquêteurs ne répondent pas aux questions, puisque même quand vous avez une opposition à 95% sur un projet, ça ne change strictement rien, et que les commissaires enquêteurs, globalement, ne donnent pas d'avis défavorable.
J'ai vu que ça ne s'appliquait pourtant qu'à 5 catégories de projets. Les énergies décarbonées, donc l'éolien, le solaire, certainement l'hydroélectricité aussi, méthanisation, les transports, la souveraineté alimentaire, économique et enfin industrielle. Tous, on pourrait dire, alors peut-être les transports, ça dépend lesquels, ont quand même cet objectif de faire rentrer le pays dans une forme de transition et d'adaptation. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?